RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, 13 équipes au départ. Oui, 13 équipes françaises vont s'aligner d'ici quelques jours et pour certaines ont déjà commencé à le faire sur les courses du calendrier cycliste. Alors, toutes ne postulent pas aux mêmes courses, même si le but et le rêve de tout créateur d'équipe, c'est un jour d'espérer être appelé à disputer la plus grande des courses, le Tour de France. Alors, tout le monde connaît les mastodontes du cyclisme français, les 4 équipes World Tour que sont Decathlon AG2R, Groupama FDJ et autres Arkea, BNB et Cofidis qui constituent le fer de lance du cyclisme français. Mais aujourd'hui, dans Grand Plateau, eh bien on a décidé de vous parler de formations moins connues et même d'une équipe qui n'existe pas encore mais dont la démarche nous a semblé intéressante. Ces deux formations, ce sont donc le team Unibet-Tidima Rockets qui évolue en Pro Team et qui est passé à l'intersaison sous l'étendard tricolore, et puis l'autre formation en gestation pour le moment se nomme Ma Petite Entreprise. On ne sait pas encore si elle apparaîtra sous ce patronyme-là une fois l'équipe constituée. Pour évoquer le destin et les ambitions de ces deux équipes, deux invités aujourd'hui. Le premier, vous le connaissez bien, c'est un grand nom du cyclisme français. Il est l'un des managers historiques même du cyclisme français. C'est lui qui, au début des années 90, avait créé puis dirigé pendant plus de 3 décennies la fameuse équipe AG2R qui, avant de s'appeler comme ça, avait commencé sous le nom de Chazal avant de se transformer en Casino puis AG2R. Bref, vous connaissez l'histoire de cette fantastique équipe. Vincent Lavenu est avec nous aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Ravi de te retrouver dans le vélo, toi qui avais quitté celui-ci il y a quelques mois après avoir été débarqué d'AG2R. On en parlera ou on n'en parlera pas. En tout cas, on veut surtout parler de l'avenir et des choses qui t'intéressent. Et puis, qui est devenu, Vincent, parrain du projet Ma Petite Entreprise il y a de cela quelques jours et dont tu vas nous parler. Également, notre compagnie, un garçon moins connu du grand public, même s'il a été pendant un an et demi lui aussi l'un des patrons de la formation Decathlon AG2R en tant que directeur général adjoint, c'est ça Benjamin ?
C'est correct, oui.
Voilà, c'est correct.
Auprès de Vincent.
Auprès de Vincent, voilà. Donc vous avez travaillé ensemble tous les deux au succès de cette équipe qui, rappelons-le, au début de la saison dernière, avait quand même cartonné et qui était quasiment l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe en termes de succès. Benjamin, qui est donc aujourd'hui l'un des directeurs de l'équipe Unibet, alors Tietema ou Tietima ?
Tietema.
Tietema. Rockets, devenu donc une équipe française à l'intersaison. Tu vas nous expliquer tout ça. Et pour vous interroger, messieurs, Pierre Cochette, le patron du numérique d'RMC Sport. Salut Pierre.
Salut.
Qui est aussi un passionné et un pratiquant de cyclisme. T'as pas eu encore envie de monter ton équipe, toi ? L'équipe RMC, ça aurait de la gueule.
Ouais, hein. Je vais faire comme Basti Thomas. Je vais d'abord finir par Paris-Roubaix et après, à peu près dans les délais, et après, on verra.
Et puis, il y en a un, en revanche, qui a eu cette idée, qui l'a menée à bien en créant, puis dirigeant pendant 4 ans l'équipe BNB KTM. Malheureusement, elle a ensuite disparu, cette équipe. Jérôme Pinault va nous parler des difficultés qu'il y a à faire vivre une formation quand on part de rien, ou presque rien, aujourd'hui. Salut mon Jérôme.
Salut à tous.
Voilà, juste cette petite équipe donc pour constituer une grande équipe de vélo. Juste là, jusque-là, quand on nous parlait de Ma Petite Entreprise, on pensait plutôt à ça. Écoutez.
Ma Petite Entreprise.
Voilà, la célèbre chanson d'Alain Bachung, Ma Petite Entreprise, une chanson qui date de 1994. Elle est presque contemporaine de l'équipe Chazal, créée, je vous le disais, en 92 par Vincent Lavenu, et qui, après 3 décennies au sein de cette équipe et de celles qui lui ont succédé, est donc devenue, il y a quelques jours, le parrain officiel de ce projet. Vincent, pourquoi avoir décidé de replonger quasi immédiatement dans le vélo ? Est-ce que c'est une drogue dure dont on ne peut se passer, le cyclisme ?
Alors, drogue dure, le mot ne me plaît pas bien.
Ah oui, oui, oui.
Vous pouvez imaginer. Néanmoins, je pense tous ceux qui sont là autour de la table sont des passionnés, sont des gens qui ont été vaccinés avec un rayon de bicyclette, comme on dit. Et c'est vrai, quand on a pratiqué, on a dirigé une équipe pendant plus de 30 ans, et être se retrouver du jour au lendemain sans activité, ça fait un choc. Et tout simplement, il y a 3 entrepreneurs savoyards, chambériens, qui ont créé un projet, qui ont envie de monter un projet, qui sont venus vers moi et qui m'ont expliqué ce projet. Et j'ai trouvé que ce projet était plein de sens, plein d'humanité, plein de contre-pieds aussi, et que ce qui se passe actuellement, justement, vous en avez parlé, avec ces millions d'euros qui arrivent d'un petit peu partout, d'État, de milliardaires et autres, ben, je pense qu'il y a aussi la place, comme dans la vie de tous les jours, il y a la place pour les petits, pour les moyens et pour les grands. Et j'ai trouvé que cette initiative était valeureuse et innovante. Et voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint tout simplement ce groupe. dans un premier temps comme parrain bénévole, tout simplement, parce que je pense que les entrepreneurs qui ont eu cette idée sont des gens bien et ils méritent qu'on les aide.
Alors, explique-nous en quelques mots les grandes lignes de ce projet, Vincent. Donc, il n'y aura pas de sponsor, de gros sponsor principal, comme c'est le cas de la plupart des équipes cyclistes. En revanche, vous faites appel à toutes les bonnes volontés et tout le monde peut venir, peut devenir sponsor de l'équipe à hauteur, ça commence, je crois, à 750 euros et ça monte à 15 ou 20 000 euros selon les bourses de chacun. Donc, tout le monde peut devenir sponsor de l'équipe et vous comptez évidemment en avoir beaucoup des sponsors, parce que pour faire vivre une équipe, il faut un gros budget.
Oui, oui, bah écoutez, c'est une initiative qui est audacieuse, évidemment, mais je pense que ça correspond aussi à ce qui se passe sur le tissu économique. On sait très bien que l'économie, notamment en France, c'est la richesse entrepreneuriale existe. On sait que la plus grosse partie du PIB, ça vient des petites et moyennes entreprises. Et on s'est dit, pourquoi pas permettre à des petites et moyennes entreprises de se payer une équipe cycliste professionnelle ou deux équipes cyclistes professionnelles, parce que le but, c'est de créer deux équipes, une équipe féminine et une équipe masculine. Et voilà, donc, partie de ce constat-là, je pense que tout a été bien réfléchi, tout est bien amendé. Et voilà, bah, je crois que ça permet surtout à des entrepreneurs de venir se payer une équipe à eux. Alors, un petit bout, évidemment, les retombées ne sont pas du tout les mêmes que quand on a un partenaire principal sur un grand maillot. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se fédérer, d'avoir une force collective autour de ce projet-là. Et un petit peu à l'image de ce qui se fait dans les clubs partenaires des sports collectifs, hein, le rugby notamment, qui marche très bien, ou qui souvent, il y a une unité de lieu qui le permettent. Mais là, c'est un petit peu ça, c'est fédérer un grand nombre d'entreprises autour d'un projet valeureux et qui mettent en avant aussi le savoir-faire et les valeurs des entreprises françaises.
Ça rappelle effectivement, Vincent, tu le disais, le modèle du Stade Rochelet ou des RC Van en rugby, qui rassemble beaucoup de sponsors, souvent des sponsors locaux, et qui rameute toutes les bonnes volontés dans leur région. Benjamin, avant de parler de ton projet, ton avis là-dessus, parce que toi, tu es issu du sport business, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut marcher, ce système-là, sachant qu'en France, effectivement, on n'a peut-être pas les moyens des gros sponsors qui viennent des pays du Golfe, mais est-ce que ça peut fonctionner, ce genre de choses ?
Moi, je trouve que l'approche est intéressante. Ça vient casser un peu le modèle dominant du cyclisme, qui comporte aussi certaines faiblesses, puisque quand on a un ou deux grands partenaires, Vincent le sait très bien, quand un de ses partenaires souhaite s'arrêter, ça met un défi sur le modèle économique de l'équipe. Donc là, effectivement, au moins avec cette multitude de partenaires plus petits, ils seront donc non dépendants d'aucun partenaire. Donc ça vient régler un des problèmes. Après, il y a un sacré défi commercial, je dirais, d'aller chercher suffisamment de partenaires pour rassembler à la fin plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est une belle aventure. Moi, je les suis effectivement depuis quelques mois. J'ai vu passer les différentes communication dans la presse, c'est assez intéressant, ça m'intrigue et je suis ravi de voir que Vincent a rejoint le projet parce qu'avec toute son expérience, tout son parcours, il va pouvoir leur apporter beaucoup de choses et donc je leur souhaite beaucoup de succès.
Ouais. Vincent, ça va être quoi votre rôle alors justement ? C'est d'essayer de les mettre en contact avec... Parce que quand on a dirigé une équipe comme la vôtre pendant des années, on en a rencontré des managers, même si tous n'ont pas signé pour vous, mais vous avez un carnet d'adresses plus gros qu'un bottin téléphonique.
Oui, alors c'est faire bénéficier de mon expérience justement de cette nouvelle équipe qui se lance dans un pari peut-être un peu fou, mais avec beaucoup d'énergie. Hein, et quand on veut réussir, souvent on réussit, même si on est capable d'abattre les obstacles. Donc évidemment, j'apporte mon expérience, mon carnet d'adresses, comme vous voulez le dire, mon réseau, et puis de structurer le projet tel qu'il doit être structuré pour qu'il puisse naître et bien naître, bien sûr.
Mm-hmm. C'est vrai que c'est un challenge, parce que le principal atout en termes de marketing, ça reste le nom de l'équipe. Oui. Donc le principal sponsor s'achète une visibilité avec le nom sur toutes les retransmissions, etc. Là, forcément, avec 10 000 ou 5 000 participants, il n'y aura pas un nom qui sera mis en avant. Donc j'imagine qu'il y aura un nom générique et que du coup, on ne pourra pas s'acheter cette visibilité-là.
Tout à fait. C'est exactement ça. Ce sera la force du collectif qui fera la dimension de l'équipe. Donc, il y a beaucoup de. Vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a pas mal de communication qui est faite. Je pense que les gens qui sont à la tête de cette petite entreprise ont un savoir-faire en termes de communication. On a eu beaucoup de papiers parce que ça intrigue, parce que c'est nouveau, parce que c'est valeureux. Et voilà, donc je crois que ce qu'il faut, c'est croire en son projet, fédérer autour de soi, permettre à des entreprises de nous rejoindre, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui aiment le cyclisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les efforts du cycliste représentent aussi les efforts que sont réalisés au quotidien dans toutes les entreprises. Donc, il y a une vraie corrélation entre les deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et on va animer notre savoir-faire avec ces entrepreneurs et aller de l'avant.
Ouais. Jérôme, toi qui as aussi créé ton équipe il y a de cela quelques années, est-ce que tu trouves le projet intéressant ? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu toi aussi te tenter de faire ce genre de choses ?
Ah mais c'est plus qu'intéressant, je l'ai tenté moi avec le club Glaz, mais après... La limite de tout cela, c'est la multiplication des partenaires. Quand on dit tout à l'heure s'il y a une entreprise qui est en difficulté, mais là c'est la même chose, hein. S'il y a un secteur qui est en difficulté, ben, ça met un projet à mal. Après, il y a aussi toute une question évidemment de juridico-économique, de mettre en place les versements à temps pour payer régulièrement, etc., etc. On sait très bien que dans un certain nombre d'entreprises, lorsqu'on est en difficulté, ce qui passe en dernier, c'est la communication, donc le sponsoring. Donc évidemment que ce modèle est très intéressant et j'aimerais beaucoup que ce soit plus comme ça dans le sport et dans notre sport. Malheureusement, il y a énormément de limites et de difficultés. Vincent l'a dit et moi, je leur souhaite un énorme courage. Maintenant, si on devait aller par là, je pense qu'il faut que l'Union cycliste internationale qui dirige le cyclisme se penche sur des sujets comme celui-là et se dise qu'il y a des sports en face de nous qui prennent du grand partenariat comme la voile et qui autorisent le mécénat. Ça, c'est une belle idée aussi pour pouvoir inciter les entreprises investies dans le sport et dans le cyclisme. Multiplier les entreprises, oui. Après, l'attrait du cyclisme, comme l'a dit Pierre, c'est le naming. Et on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui sont intéressées par cela. Mais pour les avoir rencontrés, moi aussi, ils veulent tous le petit logo, ils veulent tous le petit truc pour pas cher. Et ça, il va falloir qu'ils comprennent vite déjà que c'est pas possible. Je connais pas les gens qui entourent Vincent, mais Vincent saura leur dire. Et puis, gérer les égos. L'ego d'un chef d'entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'un million qui en verse 20 000 et celui qui en fait 500 000 et qui en verse 5 000, c'est le même ego, c'est la même chose, c'est le même investissement personnel. Et ça, il faudra le gérer. Donc, on espère tous voir ce projet avancer. Et maintenant, j'ai une autre réflexion à mener et Vincent sera certainement d'accord avec moi. Y a-t-il la place pour une ou deux équipes de plus en ce moment dans le cyclisme français ? Il y a aussi ça comme question à se poser.
Alors oui, alors après, c'est la place de l'équipe, à quel niveau ? Parce qu'évidemment, quand on pense à cyclisme de très haut niveau, on pense aux équipes World Tour. Vincent, c'est quoi le but à terme de ma petite entreprise ? C'est là aussi de faire le Tour de France. Tous les patrons d'équipe, tous ceux qui créent les équipes, ont l'ambition un jour de participer au Tour. Est-ce que c'est aussi votre cas, alors que l'équipe n'est pas encore créée ?
Alors, bien évidemment, quand on crée un projet comme ça, on se doit d'être ambitieux. Il faut être réaliste aussi et prendre le temps nécessaire. Oui, l'objectif, c'est de réaliser, de participer au Tour. Quand ? Ça, c'est notre capacité de rassembler sur ce projet qui nous le dira. L'idée, c'est, dans un premier temps, en 2026, essayer de créer deux équipes. Voilà, une féminine, une masculine. Tout dépendra de notre capacité encore à rassembler les budgets. Si c'est un budget, on arrive à rassembler 5-6 millions d'euros, je pense qu'on aura cette capacité de créer deux équipes. Alors, des équipes jeunes, certainement, dans un premier temps, avec un pouvoir de développement. Voilà, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Les équipes dirigeantes sont humbles, ont des ambitions très fortes, mais ils savent aussi qu'il y a beaucoup de barrières à franchir, qu'il y a beaucoup d'objectifs à réaliser. Mais voilà, si on y croit pour le départ, ce n'est même pas la peine de se lancer dans la voiture. Donc, on y croit.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est une évidence.
Et voilà, on sait très bien qu'il y aura des difficultés. Mais je crois que c'est un concept nouveau qui mérite d'être écouté, d'être entendu, d'être encouragé. Parce qu'encore une fois, il y a un vrai travail qui est réalisé au niveau de toutes les entreprises françaises, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et de permettre à des petites entreprises, des moyennes entreprises de venir, pas mettre le nom en gros sur le maillot, mais faire une force collective autour d'un projet cycliste, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. On a jusqu'ici un retour assez intéressant. Et donc, les prochaines semaines et les prochains mois seront déterminants pour savoir où est-ce qu'on va aller. Mais il y a deux objectifs, équipe féminine, équipe masculine, dans un premier temps.
Ce qui est très, très, très intéressant dans ce projet-là, que moi je soutiens évidemment moralement, et s'il y a besoin d'un coup de main, je dirais avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui passionne, parce que c'est un projet à taille humaine et un projet qui ressemble à notre sport. On va tomber enfin sur des gens qui mettent un peu d'argent pour soutenir un projet sportif et qui aiment notre sport. Et non pas que pour avoir de la visibilité. On le sait aujourd'hui, les grandes entreprises sont quand même dirigées pour beaucoup par des fonds d'investissement. Et pour le coup, ils viennent là pour essayer de récolter de l'oseille. Il faut leur dire à tous, il n'y a pas d'oseille à gagner dans le vélo. Il y a une passion, il y a un mouvement, il y a de l'émotion, il y a des choses qui se passent humainement. Mais gagner de l'argent dans le vélo, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Le système ne le permet pas. Alors, à moins qu'il y ait une révolution dans le système, ça n'est pas prêt d'arriver. En revanche, avoir et partager des émotions humaines, du plaisir, être supporter et avoir un impact direct sur l'émotion de nos coureurs et de notre équipe, ça c'est possible. Et c'est pour ça que ce projet est extrêmement intéressant, parce que de multiplier les entreprises passionnées de vélo, évidemment, moi j'ai croisé énormément de chefs d'entreprise en Bretagne qui étaient passionnés de vélo, mais qui n'existaient pas face à des grands partenaires, donc ils préféraient ne même pas y aller. La problématique ensuite, et ça, Vincent la connaît mieux que moi, et on en a parlé par rapport à ce qui se passe dans le rugby, c'est l'unité de lieu. Et l'unité de lieu dans le cyclisme, le plus grand organisateur de toutes les courses du monde s'appelle ASO. Ils ne vous permettent pas de réunir votre club entreprise, ou alors ça coûte excessivement cher. Il va falloir que le cyclisme réfléchisse à ça aussi. Des structures d'accueil, des arrivées en circuit permettant à des équipes comme celle que porte Vincent à réunir ses partenaires qui peuvent être 200, 300, 400 et d'avoir des unités où on se rencontre, où on fait du business ensemble. Parce que c'est ça aussi le but de ces équipes-là, c'est de faire du business, de se rencontrer et de travailler ensemble, d'apporter du plaisir à l'équipe, des performances et en même temps de faire du business ensemble. Mais pour ça, il faut une unité de lieu et on ne l'a pas pour le moment.
Alors, pas d'unité de lieu. Benjamin, quand Jérôme dit qu'il n'y a pas de sous à se faire dans le vélo, ça ne te refroidit pas, toi, avec ton projet là aussi d'équipe qui existe déjà, dont tu vas nous parler. Mais est-ce que quand on est dans le monde du business, on sait que dans le vélo, il n'y a pas beaucoup de sous à se faire?
Ouais, on le sait, on le comprend vite. Enfin, moi, je suis rentré dans le vélo donc il y a maintenant 4-5 ans et j'ai pas mal travaillé donc avec Vincent. Et oui, je connaissais le modèle économique avant de rentrer à l'intérieur d'une équipe. En ayant travaillé dans l'équipage des airs, voilà, j'ai tenu vraiment la bourse, donc j'ai vu de quoi il en retournait. Mais le sujet du projet que je viens présenter n'est pas de se faire de l'argent. Donc je comprends ce que veut dire Jérôme. J'y adhère. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir à côté de cela, des réflexions, voire des projets pour modifier l'équilibre, modifier le modèle général, mais on n'y est pas, on en est très loin. Donc ce n'est pas le sujet du jour. Mais donc oui, c'est clair et je suis assez d'accord.
Alors Benjamin, avec tes associés donc, qui sont néerlandais, que sont Bas Tietema, qui est un ancien coureur cycliste, qui a participé à Paris-Roubaix, on va en parler dans un instant, Joss Wester, donc ton autre associé, vous êtes donc parti sur un projet différent de celui de ma petite entreprise, mais là aussi ça part d'un pari un peu dingue. Raconte-nous un peu la genèse de cette équipe.
Oui, je pense qu'on peut revenir au point de départ pour décrire un peu le projet dans ses grandes lignes. En 2019, trois Néerlandais, donc les deux que tu as cités, plus Dewin van der Wiel, ont créé une chaîne YouTube où ils ont commencé à faire des vidéos autour du Tour de France avec un ton un peu décalé, un ton un peu humoristique. Notamment, ce qui les a fait connaître, c'est le fait qu'ils ont apporté des pizzas pour les coureurs et pour les staffs à l'arrivée du Tour de France, place de la Concorde, dans un jeu un peu drôle où dans le cyclisme, les coureurs vont avoir une hygiène de vie poussée à l'extrême, ouais. Et donc ne pas avoir mangé de pizza probablement pendant les 6 derniers mois. Et là, une fois que le tour est fini, il y a un peu de décompression et donc ils peuvent se permettre une pizza. Voilà, ils ont fait ce type de vidéo-là. D'ailleurs, ils les continuent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont devenus, on peut dire, influenceurs YouTube. Et ils font maintenant toutes sortes de vidéos avec des défis. Voilà, combien de kilomètres je peux rouler sur 24 heures? Est-ce que j'arrive à monter le Ventoux avec un vélo pour enfants, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ils font ces vidéos, alors qu'ils sont pour l'instant en néerlandais, mais qui génèrent des centaines de milliers de vues sur YouTube. Et en 2023, il y a eu un vrai virage dans leur projet, parce qu'ils ont dit, OK, on ne veut pas seulement être les...
amuseurs publics.
Voilà, les amuseurs, on peut dire comme ça, les amuseurs du peloton. On veut aussi se lancer un défi ambitieux de créer une équipe professionnelle et de la monter. On y vient jusqu'au Tour de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé en division Conti, donc troisième division mondiale, avec un partenaire Unibet qui est toujours à nos côtés aujourd'hui. Et
Unibet qui est une boîte de paris sportifs donc qui génère beaucoup d'argent, donc qui a des sous, et qui a été rachetée dernièrement par la Française des Jeux.
Exactement. Exactement.
Ça n'a pas posé un problème, ça? Parce qu'il y a déjà une équipe, me semble-t-il, qui s'appelle...
Oui. Alors non, sur la base d'informations que j'ai aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Ce sont bien... alors c'est le même groupe dorénavant, ouais. Mais ce sont...
Tudor est sur deux maillots différents et propriétaire en partie de deux équipes. Donc j'espère que ça ne va pas poser de problème aux petites équipes qui arrivent.
Ouais.
Ouais, donc je pense que enfin, vis-à-vis de l'UCI, ce n'est pas un sujet. Et vis-à-vis du groupe...
Red Bull, pardon, Red Bull.
Oui,
pas
parce que
Red Bull.
Tudor, je...
Ouais, c'est ça, Red Bull. Donc vis-à-vis de l'UCI, ce n'est pas un problème. Et vis-à-vis du groupe, il me semble que ce n'est pas un problème parce qu'ils peuvent promouvoir deux marques, ouais, de leur business de façon simultanée. Et donc en 2023, l'équipe Pro démarre en troisième division avec Unibet. Et dès l'année 24, ils sont montés en deuxième division. Donc là, on parle...
Donc, il y a eu de très bons résultats,
voilà,
pour permettre de changer...
33e équipe mondiale, pour donner un ordre de grandeur, avec un projet à 3-5 ans d'intégrer le top 15, donc monter au niveau World Tour, première division mondiale. Et effectivement, la saison dernière, ils ont participé à leur première course World Tour, comme l'Amstel Gold Race, qui est la course principale aux Pays-Bas, et également le Renewi Tour, qui est le tour du Benelux. Et donc, ils sont arrivés sur le très, très haut niveau, aux côtés des coureurs que tout le monde connaît, des grandes équipes ouais, de première division mondiale.
Et alors, entre-temps, en plus, cette équipe est devenue française. Par quel coup de passe-passe avez-vous réussi à changer de nationalité? Ça se fait comme ça? On peut changer facilement de nationalité? Alors, quand on n'est pas content d'être hollandais, on peut devenir français dans le vélo?
Non,
c'est bien,
facilement,
ça.
Je ne sais pas. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nouvelle loi aux Pays-Bas qui va être active en 2025, qui interdit les équipes de sport pro de promouvoir les opérateurs de paris sportifs.
D'accord.
Donc,
C'était le cas en France, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, puisque Arnaud Coyot et le disparu que l'on salue, et Jimmy Casper, appartenaient déjà à l'époque à une équipe Unibet.
Et c'était pas autorisé en France, mais depuis c'est autorisé en France.
Ça a été interdit, ouais. Voilà, exactement.
Ouais. Et donc, comme on a un lien fort avec Unibet, on voulait continuer à travailler avec eux et eux aussi. Donc, on a dû changer de pays. L'analyse a été faite de comparer les différentes options. Et là, l'UCI fixe des règles pour choisir son pays d'attachement. Et on peut choisir le pays de notre partenaire principal. Unibet ayant été racheté par la Française des Jeux, qui était un groupe français, on pouvait devenir une équipe française.
D'accord.
Et donc, on est devenu une équipe française en 2025, ce qui génère plein de conséquences, notamment parce que l'équipe...
50% de charge.
Ça, c'est un sujet dont on peut parler, effectivement. J'allais mentionner autre chose, j'allais mentionner plutôt un côté positif.
Moitié moins de budget.
où l'équipe va participer à l'ensemble des courses de la Coupe de France et donc va devenir tout d'un coup beaucoup plus visible pour le public français dès début février à la Marseillaise, par exemple.
Ouais. C'est plus intéressant. Jérôme, tu le disais, il y a des problèmes quand on est une équipe française avec les charges. Hein. On en avait parlé avec Emmanuel Hubert il y a de cela quelques semaines. Mais il y a aussi les avantages. C'est-à-dire que si tu ambitionnes un jour de faire le Tour de France, vaut mieux quand même être une équipe française. Tu as plus de chances d'y participer.
Il faut être français. Ouais, il faut être français, à part si tu surperformes et que tu es comme une OX aujourd'hui en tête du classement Continental Pro. Mais évidemment que lorsqu'on va chercher une wildcard, hein, pas une qualification, une wildcard, il faut être français. Aucune autre équipe ne sera invitée si elle ne l'est pas. Hein. Et ça, c'est une évidence. Après, à côté de cela, c'est assez difficile, évidemment. On a des contrats de travail, nous, on a des charges et les coureurs sont couverts. Donc, c'est un tout autre univers. Je ne veux pas m'avancer, Benjamin, mais je pense que dans cette équipe-là, jusqu'alors, 15 ou 16 coureurs étaient 16 coureurs sous contrat indépendant. Ils avaient tous, c'est tous des micro-entrepreneurs au sein de l'équipe. Ce n'est plus le cas en France, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a énormément de choses qui changent au niveau juridique. C'est une très bonne chose parce qu'il faut être sur la même ligne de départ que les autres. Maintenant, nous, on s'y met et tout le monde ne s'y met pas. La problématique d'être français, le budget annoncé au départ, et Vincent pourra en témoigner, il faut le diviser par deux, hein, parce que c'est vraiment le budget de fonctionnement après toutes les charges indiqué, c'est ce qui reste et sans compter la difficulté à attirer les grands parce que payer des salaires mirobolants et incroyables lorsqu'on est en France, c'est très difficile puisque il faut le double pour pouvoir payer. Donc tout cela fait que c'est un très bon choix pour être un jour invité au Tour de France. Maintenant, c'est aussi très difficile économiquement d'y aller de l'avant. Maintenant, Unibet étant le partenaire principal, s'ils aiment l'équipe, tant mieux. Je me poserai moi toujours la question comment dans certains cas, on interdit deux fois le même sponsor et d'autres pas, et comment on peut être partenaire d'une équipe et d'une course aussi. Voilà, c'est plein de choses, mais apparemment, et a priori, dans le cyclisme, et notamment à l'UCI, on a tellement de dossiers à gérer qu'on gère les principaux d'abord, c'est-à-dire créer des championnats de e-bike, championnats de France et championnats du monde pour faire un peu d'oseille, plutôt que de s'occuper de ces vraies problématiques-là. Chacun ses priorités.
Oui, non, c'est vrai que devenir français représente un certain défi, au départ administratif d'ailleurs.
Je te confirme, voilà. Tu vois, si demain on me disait à moi, tu veux revenir,
t'aurais dû rester breton.
Si à moi, aujourd'hui, on me disait, tu veux revenir, je dis oui, mais je ne suis pas sûr que j'installe mon équipe en France. Vraiment pas sûr.
En revanche, j'insiste, ça offre beaucoup d'opportunités.
Mais par contre, au niveau du calendrier, on doit remercier nos organisateurs, parce qu'eux, ils tiennent bon, et on a le meilleur calendrier international. On a un certain nombre de courses, mais évidemment, la visibilité est énorme. Maintenant, il faut qu'elle soit mise en place et soutenue, et notamment du côté des médias et des grands organisateurs qui doivent nous soutenir. Sinon, ces petites courses-là aussi seront débarquées, comme les petites équipes seront débarquées.
C'est là où je veux en venir. Merci. On a reçu un super accueil de la LNC, avec qui on est en train de tisser des liens de qualité pour devenir une équipe française comme une autre. Le passage sous pavillon français n'est pas juste un détail administratif, c'est un vrai projet majeur d'entreprise. Donc ça, c'est super. On est reconnaissant vis-à-vis de la LNC de nous avoir reçus dans des bonnes conditions. Et puis, par rapport aux défis économiques que tu mentionnes, Jérôme, c'est intéressant de noter que dans l'équipe Rocket, en fait, il y a un vrai potentiel de croissance aujourd'hui, puisque déjà on espère être suffisamment bon pour convaincre Unibet de rester avec nous encore longtemps et d'abonder encore plus dans notre budget. Et en plus, on a, si vous avez bien noté le nom, Unibet Titima Rocket. Titima est une, donc c'est le nom de famille du fondateur, mais c'est une sorte de position d'attente, puisque dès que possible,
un sponsor,
dès que possible, on aimerait faire tomber, avec tout le respect que j'ai pour Bas, son nom de famille dans le nom de l'équipe, pour le remplacer par un grand groupe qui viendrait nous soutenir.
Et ce qui est important, le troisième nom, en revanche, ça, tu vas y venir, Benjamin, mais c'est un nom que vous
avez. C'est du marketing.
C'est quoi, comme une franchise NBA, quoi, en gros.
Exactement. C'est le point que je voulais mentionner ensuite. C'est une bonne transition. À partir de 2025, l'équipe s'appelle les Rockets. C'est un très bon exemple. C'est comme un nom, il faut le considérer comme un nom d'une franchise sport américaine. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe s'appelle les Rockets et ce nom va perdurer. On pense que c'est un point qui peut nous ouvrir énormément d'opportunités, puisque en créant notre identité propre, les Rockets, on va pouvoir générer une base de fans, fidéliser des suiveurs sur le temps long et utiliser nos propres couleurs. C'est aussi un défi vis-à-vis des partenaires. Unibet a accepté de prendre nos couleurs à nous.
Et ça veut dire qu'ils renoncent au fait qu'on les appelle Unibet 10 fois, 15 fois par course. En plus, vous êtes quand même assez souvent à l'avant. En tout cas, l'année dernière, c'était de faire parler, donc ça a été assez efficace. Ils acceptent, eux, de devenir, en fait, en quelque sorte... sponsor secondaire en termes de naming.
Ouais, parce qu'ils comprennent en fait que l'apport de valeur que propose l'équipe est totalement différent. Donc il y a dans le naming quand même Unibet et Team Rocket, il y a le logo Unibet sur le maillot aussi, mais au-delà de ça, vous avez une approche sur les réseaux sociaux qui est totalement innovante, puisque quand vous prenez en considération que les fondateurs sont des youtubeurs, en fait, qui mieux que pour bâtir des storytelling, raconter des belles histoires. Et aujourd'hui, l'équipe se développe avec un double projet, un projet réseaux sociaux, qui va continuer à faire les défis, les challenges un peu humoristiques autour du vélo, et l'équipe de vélo professionnel. Et il va y avoir des passerelles business entre les deux, ce qui font que Unibet peut être partenaire de l'un ou des deux, ou de l'autre, etc. Et donc, on apporte d'autres aspects de valorisation, de mise en avant des partenaires, grâce à cet apport, qui est, à mon sens, bien plus puissant que n'importe quelle autre équipe majeure. Alors, aujourd'hui.
C'est extrêmement impressionnant ce qu'a fait Bastitema et même toute l'équipe sur l'année qui vient de s'écouler. La première année dans le peloton à ce niveau-là, c'est extrêmement impressionnant. D'ailleurs, il a gagné le dernier un cyclocross aussi.
Exactement, il y avait un ça s'appelle la Turbo Race. En fait, fin décembre, en Belgique, il y avait un cyclocross pro.
C'est lui qui l'a gagné, il a participé.
En fait, il y avait une course pour les femmes d'élite, il y avait une course pour les hommes d'élite, et entre les deux, des influenceurs YouTube qui se sont mis en partenariat ont décidé de faire une course entre eux, et en binôme.
C'est plus facile, ancien coureur pro.
Et il a effectivement gagné. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect-là où on essaye de mettre l'emphase. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres des entreprises qui montrent la visibilité des partenaires, l'équivalent en euros de la médiatisation qu'on peut leur présenter, alors même que l'équipe est une équipe de deuxième division mondiale, les chiffres explosent, les équipes World Tour, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus riche, beaucoup plus différenciante. On pourrait aussi citer le virage de supporters dans l'Amstel Gold Race, où pour la première fois dans l'histoire du vélo, contredisez-moi si je me trompe, une équipe a réussi à rassembler 5 ou 6 000 supporters sur un même virage avec un tifo aux couleurs de l'équipe.
Il y avait eu le virage Pinot, le virage Bardet aussi. Alors ouais, lors du dernier tour.
Effectivement, mais ça c'était pour des coureurs qui ont une personnalité marquante avec des fans qui les suivent. Mais je pense que ça n'avait jamais existé. Puisque justement, elle change de nom tous les 3 ans, elle change de couleur. Ouais. Là, comme c'est les Rockets pour toujours, avec les couleurs qui sont les nôtres, on peut se permettre de faire ça.
Mais là, c'est un challenge assez énorme d'ailleurs pour Titoma et pour vous, toute votre équipe, c'est qu'il y a une culture.
C'est du déjà vu, hein.
Oui, il y a une culture vélo extrêmement forte aux Pays-Bas. Et donc, ces influenceurs-là ont un terreau sur lequel, effectivement, pas mal de monde ont ces références. Pas mal de monde. Maintenant, il va falloir, effectivement, aller chercher un public international et français.
Un public français.
Et le public français, il faut aller le chercher sur ses vidéos YouTube aussi. Et ça ne va pas être simple non plus avec...
Alors, effectivement, c'est dans le plan de développement.
Ouais, j'imagine.
Aujourd'hui, les vidéos sont... en néerlandais pour la partie défi youtubeur et en anglais pour la partie équipe pro. On travaille sur un plan qui sera mis en œuvre dans quelques semaines.
C'est pas possible,
pour que les vidéos soient disponibles en anglais, en français, et avec différentes approches, mais qu'effectivement très vite tout le contenu soit en français disponible pour élargir la base de fans.
Jérôme, toi aussi avec ton équipe, tu avais essayé de donner une couleur. D'abord, il y avait les couleurs de l'équipe, il y avait le bus qui se déplaçait. Voilà, il faut trouver des petites idées comme ça pour arriver à identifier une équipe quand on n'est pas une équipe du sommet comme a pu l'être l'équipe de Vincent l'avenue auparavant.
Ouais, tout à fait. Toujours. Ah non, évidemment, ce que raconte
Benjamin.
On est en train de dire Benjamin, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on avait une base de fans avec des couleurs à nous, les Men in Glass, la marque Club, le développement d'une couleur qui était la nôtre sans y apposer de marque dans le nom. Ça, c'était pour la communication. Maintenant, on s'est aussi confronté au prix et au budget que l'on demandait pour être sur un maillot. Et évidemment que là, le sponsor demande à être présent. La visibilité sur les réseaux sociaux, elle est pas assez importante pour la population française, puisque la population française qui suit le cyclisme à la télévision a plutôt entre 50 et 70 ans. Et les jeunes qui vont sur les réseaux, eux, entre 20 et 50 ans. Donc, on n'a pas les mêmes personnes, mais ce projet est formidable. Moi aussi, j'aurais aimé garder les Men in Glass jusqu'au bout et ne jamais avoir le nom de mon partenaire. Maintenant, tout dépendra du montant demandé au partenaire, mais lorsqu'il s'agit de 5, 6, 7, 8 millions, on a du mal à leur faire comprendre qu'ils seront que sur le maillot et pas dans l'appellation. Mais c'est un vrai défi aussi. Et heureusement... ils sont dans l'appellation, sauf que toi, tu voudrais qu'ils s'appellent les Rockets en permanence et que
Pour les journalistes qui commentent le Tour, moi, ça me va très bien. Si on a besoin de dire que les Rockets, je marche à fond là-dedans. Hein. Parce que là, je parle de ma propre petite boutique, mais quand aujourd'hui, tu dois donner les sponsors des trois.
Unibet, Titema, Rockets, ça fait beaucoup.
Ah non, mais je me rappelle quand tu étais là, quand tu étais patron d'équipe, Jérôme, et qu'on t'interviewait, qu'on disait juste BNB Hotel, il fallait rajouter, tu dis, ah ben non, il faut dire aussi, machin. Et c'est un peu...
Vital Concept, c'était la moitié du budget, donc évidemment voilà. Qu'il fallait lui dire.
Évidemment, mais vous comprenez aussi que pour les médias...
C'est pour ça qu'ils payent.
Pour les médias, nous on n'a pas d'argent de la part des sponsors, évidemment. Et quand tu dois déjà donner... il te faut 30 secondes pour donner le nom d'une équipe, ça commence à devenir compliqué.
Non, mais ça, c'est
donc,
sûr.
Avec l'équipe de Vincent Lavenue, ça va être encore plus compliqué, Vincent, parce que si vous donnez le nom des 10 000 sponsors, je ne sais pas comment on va faire. Hein.
Non, ce sera ma petite entreprise.
ce sera beaucoup plus simple, ça s'appellera ma petite entreprise, donc c'est très simple. On va fédérer autour de ce projet des milliers d'entreprises qui vont nous suivre et qui auront accès justement au système économique du sport cycliste, voilà. Ouais. Alors qu'ils n'y ont pas accès aujourd'hui.
Vincent, je te posais la question tout à l'heure, mais il y avait un petit problème technique. Quand on passe comme ça, quand on change de sponsor tout au long d'une carrière à la tête d'une équipe, quand on passe de Chazal à Casino, de Casino à G2R, Decathlon, c'est pas toujours facile de garder son identité, et d'autant qu'on change aussi souvent de couleur. Comment on essaye de garder l'identité? On la garde de par les patrons de l'entreprise ou par les coureurs qui restent?
Alors, la plus grande difficulté, c'est déjà de garder ses sponsors, ouais, et de faire vivre son équipe. Ça, c'est la première difficulté. Et quand on est, quand on change de partenaire, je pense que non, l'identité, naturellement, elle se perdure. Parce que pourquoi cette équipe, elle est composée déjà d'un certain nombre de coureurs, des mêmes patrons, d'une histoire, voilà, d'un projet global. Donc forcément, même si on change de partenaire en cours de route, on sait très bien que c'est toujours la même équipe. Il n'y a pas de problème avec ça.
Ouais. Vincent, tout au long de tes 30 ans à la tête de cette formation, tu as vu l'évolution du cyclisme professionnel, cette recherche de toujours plus de budget pour continuer à exister, à grossir. Est-ce que ça finit pas par lasser finalement ça ? Est-ce que c'est pas le plus compliqué dans une carrière de manager cycliste, cette recherche incessante de toujours plus d'argent pour faire vivre sa formation ?
Si, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, hein, c'est que, et Jérôme est bien placé pour en parler également, la plus grande difficulté, c'est effectivement d'aller trouver du budget et de rester au niveau sportif. Et on voit bien que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a pris une dimension qui est assez incroyable. Moi-même, je pensais il y a 4 ou 5 ans qu'on avait atteint des plafonds. Et bien non, je crois qu'aujourd'hui, le niveau moyen, le budget moyen des équipes du World Tour est de plus de 30 millions d'euros. Donc forcément, ça limite l'accès, forcément, même des grandes entreprises au niveau international, quand elles veulent intégrer une équipe cycliste de très haut niveau, eh bien, le ticket est élevé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des équipes d'État, des équipes qui sont supportées par des milliardaires, et que derrière, on a l'impression qu'il y a deux courses différentes. La course des 5 ou 6 grandes équipes qui monopolisent l'ensemble des meilleurs coureurs. Et derrière, un certain nombre d'équipes qui veulent rester dans le World Tour parce que ça, c'est essentiel pour perdurer, mais qui récoltent un petit peu les miettes et qui souvent se basent pour faire de la formation, trouver des bons coureurs et essayent de les garder au fil du temps, mais ce qui n'est pas simple.
Ouais. La Gazzetta dello Sport a rapporté il y a quelques semaines que le budget moyen des équipes du World Tour masculin avait augmenté de 60% en 3 ans pour atteindre 32 millions d'euros, ouais, en moyenne en 2024. Mais avec 32 millions, on est loin, évidemment, Jérôme, du budget du AE, de Visma, d'Ineos et compagnie, eux qui sont quasiment au double, hein, pour UAE
50,
notamment.
60, 50, ouais, ouais. Bon, UAE, c'est autour de 60 millions. Après, est-ce qu'il y a vraiment un budget de fixé ? Tant qu'on gagne, on paye. Donc, non, c'est même alarmant parce que, encore une fois, hein, je le répète et je le dis, mais Vincent Lavenue, demain, il va chercher un partenaire comme il a été cherché pendant des années, réussir à amener de l'argent dans ce sport. Et ça, on doit nous le reconnaître. Moi, j'ai amené BNB. C'est un départ d'un partenaire comme ça. Aujourd'hui, 3, 4, 5, on parle. Mais 10, 15, on ne parle plus. Ce n'est plus la peine. C'est trop cher pour eux. Et en sachant que pour l'équipe, 15 millions, c'est que 7,5 de fonctionnement. Parce qu'on en reverse 7,5 quasiment de charge. Donc, on est de toute façon en France pas sur le même, pas sur le même ligne de départ que toutes les autres. Si demain, une équipe française arrive avec un énorme partenaire, on pense à LVMH qui, à une époque, a pensé faire du vélo, mais finalement, ils ont fait des Jeux Olympiques, 50 millions. Ça fait que 25 pour la France. Il est là aussi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est pas les mêmes contraintes économiques et sociales. Alors évidemment que c'est un plus pour nous d'avoir des contraintes sociales, puisque les coureurs sont sous couvert. On a des staffs qui sont avec des contrats à durée déterminée, voire indéterminée, avec des charges et pris en charge. Mais malgré tout, pour l'équité sportive, ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué. Souvenez-vous, moi, Vincent pourra témoigner, moi, j'ai fait mon premier Tour de France chez Bonjour.fr. Le budget de l'équipe était 2,8 millions d'euros. Et on n'était pas ridicule ?
Ouais, à l'époque, ça a tellement changé depuis. Hein. Et le budget de l'équipe Casino, Vincent, c'était combien à la grande époque ?
Alors, je ne veux pas te dire de bêtises. Je pense que c'était des francs, hein, parce que c'était 97 ouais, et 98, ouais. 97-18. Je pense qu'on était à 15 millions de francs, donc ce qui fait, Benjamin va nous le dire en euros.
2-3. Avec l'inflation, ça peut... Voilà, ouais. 2-3.
Et avec ça, on était à un très, très bon niveau.
Bien sûr,
hein,
au top.
Ouais. Ouais. Benjamin, chez Unibet Rockets, quel est le budget ? Et quel budget espérez-vous atteindre dans les années à venir, sachant qu'il va falloir donner un peu de sous à l'État. Vous avez compris, maintenant vous êtes français. Hein.
On l'a bien compris. Alors, à ce stade, on ne communique pas sur un budget. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu une forte progression, puisque pour passer de l'équipe de 3e division à 2e division, il faut faire un multiplicateur assez important. Unibet nous a suivis dans ce projet-là. Les engagements avec Unibet sont pluriannuels et on peut espérer que ça continue à grossir. Mais comme je disais tout à l'heure, on a de la place encore pour faire venir d'autres partenaires. Et en plus, on a des super nouvelles qui vont tomber en 2025. Je pense que je peux en parler.
Ouais, et qui vont,
la première vient de tomber.
Exactement, la première vient de tomber. ASO a confirmé aujourd'hui que l'équipe Unibet Titi Maroquet va participer à son premier monument.
Voilà, ça sert de devenir français.
Voilà, donc on va participer avec joie et enthousiasme à Paris-Roubaix en avril 2025. Et donc, on pense aussi que toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à nous peuvent nous aider à convaincre d'autres partenaires de nous entourer pour développer un projet pérenne.
Qu'est-ce qui procure le plus de plaisir quand on est manager d'équipe? Je vous m'adresse à vous trois. Pierre, nous, on n'est pas manager, malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé. C'est la signature d'un gros sponsor, une victoire d'étape sur le Tour ou sur une grande course, le recrutement d'une star ou l'annonce, justement, d'être invité à une course comme Paris-Roubaix. On va commencer avec vous, Vincent.
Je crois que ça reste les victoires. Hein. Ouais. Nous sommes à la base, on est tous des sportifs, on a tous vécu, on a couru, on sait ce qu'on présente, les émotions de la victoire ou du très bon résultat. Mm-hmm. Mais évidemment, en ce qui nous concerne, on a terminé deux fois deuxième du Tour, ouais, troisième et quatrième du Tour.
Quand Romain Bardet gagne à Saint-Gervais ou ce genre de choses, c'est sûr que
même Jean-Christophe Perrault, qui a été le premier coureur chez nous, qui a terminé deuxième du Tour. Je peux vous dire que c'était, on a validé sa deuxième place au classement général à l'issue d'un contre-la-montre. La montre, on était tous dans la voiture, on chialait tous parce qu'on sait ce que ça représente comme effort à tous les âges, l'effort des partenaires, l'effort du staff, l'effort de la direction pour mobiliser les budgets. Et quand vous arrivez, alors le cyclisme a ceci de particulier, c'est que finalement on gagne très peu. Si on regarde bien en football, quand vous êtes moyen, vous gagnez par Boca Jar, mais en football, quand vous gagnez vous gagnez une fois sur deux, vous êtes moyen. Quand vous gagnez deux fois sur trois, vous êtes bon. En vélo, quand vous êtes bon, vous gagnez une fois sur 10. Ouais. Donc les grandes victoires, je peux vous dire qu'elles sont génératrices d'émotions très très fortes, et c'est finalement pour ça qu'on fait ce métier.
Jérôme, pareil.
Ouais, avec toute la mesure que j'ai subie, puisque moi, ça s'est arrêté malgré les bons résultats. Donc, je dirais que la plus grande émotion que j'ai eue, moi, en tant que manager, ce sont évidemment les victoires, les grands moments d'émotion que m'a offert Franck Bonamour, Brian Coquart aussi sur certaines courses. Mais je crois que tout
quand
ça est lié au
fait... Quand tu as pris ta sélection pour ton premier Tour de France en tant qu'équipe...
Ouais, j'en ai pleuré, évidemment. J'en ai pleuré parce que c'est l'aboutissement d'un long travail. Mais tout ça est dû au fait que je savais aussi que je partais sur un budget annexé avec la participation du Tour ou pas. Et c'était plutôt un soulagement de dire on va pouvoir boucler l'année, parce qu'on est des comptables au final. Quand on est manager, on est d'abord responsable d'eux, parce que Vincent dit les émotions du sport, oui, mais moi j'ai gagné des courses, Tour de Croatie, alors la dernière année de l'équipe, on gagne avec le petit Laurence, qui allait devenir un an après champion du monde espoir, alors que je sais qu'on n'a plus l'argent pour continuer, donc malgré tout, le nerf de la guerre, c'est le budget, c'est les sponsors, et même la victoire d'Axel là-bas nous a pas donné le budget nécessaire, donc moi, si demain j'avais, avec un peu de réflexion, d'émotion à prendre, c'est oui, je signe un gros sponsor et je suis peinard. Moi, je n'ai jamais fait une année avec un bouclage de budget à 100% en pensant à juste le sport. C'est peut-être ça aussi le problème.
Mmh. Benjamin, toi qui es plus un homme d'argent, un homme de business, c'est quoi les plus grands bonheurs que tu as découvert dans ce métier autour du sport cycliste depuis quelques temps?
Je vais reprendre les idées de Vincent et de Jérôme et je vais en ajouter une troisième. Donc effectivement, je garde en mémoire, par exemple, la victoire de Félix Gall au Tour de France. J'étais dans la voiture ce jour-là quand je travaillais aux côtés de Vincent. Ça, c'est un super souvenir. Quand on a réussi à signer les partenariats avec Van Riesel ou Decathlon, super étape du projet qu'on menait aussi. J'ajoute donc une troisième dimension. C'est la partie rayonnement médiatique. Et puis même au-delà de ça, les liens qu'on peut générer avec les fans. Et moi, je le vois à travers les yeux de mes enfants, où je vois que le métier que je fais donne envie à mes enfants de faire plus de sport, notamment plus de vélo. Et je pense qu'au-delà de ma famille, ça peut dépasser tout ça. Je pense qu'on est aussi des sources d'inspiration pour le grand public, pour se mettre à faire plus de sport. Et je pense, sans être un expert, que ça peut nous aider à améliorer la santé publique. Et donc, on a un projet vertueux dans ce cadre-là.
Ah bah, l'État français l'a bien compris, nous ont mis 30% de budget en moins. Ne vous inquiétez pas, ils prennent ça en main, il n'y a pas de souci.
Vincent, une dernière question. Quel sera ton rôle dans les années à venir si le projet décolle vraiment, si vous arrivez à fabriquer ces deux équipes et à monter en division? Est-ce que tu veux reprendre la direction sportive de l'équipe ou tu resteras un peu en retrait? Quel serait ton rôle et le rôle idéal?
Mon rôle ne sera pas de refaire ce que j'ai fait pendant 30 quelques années. J'ai beaucoup donné. C'est quand même... Un métier manager d'équipe cycliste, c'est quand même un métier à 200% où vous y laissez votre vie. Donc voilà, le but, c'est de permettre à cette entreprise, à cette équipe de grandir, de les accompagner, de les guider, de peut-être représenter cette équipe sur les instances, de faire un peu de relations publiques, voilà. Mais pas de devenir le manager général de cette équipe. Voilà, j'ai déjà beaucoup donné et je pense que l'important, c'est que ce projet puisse exister, puisse vivre, puisse se développer et surtout permettre à ces petites et moyennes entreprises de venir supporter une équipe cycliste et de se l'approprier. Donc mon but, c'est ça.
Eh bien, on va vous souhaiter à tous les deux une totale réussite dans vos projets. Donc avec d'un côté Unibet, Titima Rockets et de l'autre côté ma petite entreprise. Merci messieurs d'avoir été dans Grand Plateau avec ces beaux projets. Et on va pousser derrière vous. Hein,
merci beaucoup.
Pour la sélection,
merci.
Pour le Tour de France.
Merci à tous.
Merci. D'autres choses bien avant. Merci Vincent Lavenu, merci Benjamin Huitbol et merci à Jérôme qui est toujours là. Enfin, Jérôme, il est à la fois consultant et en même temps, on l'interroge sur son expérience. Merci Pierre. on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Bonne semaine. Ciao, ciao.